Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7. Nous sommes donc pour un nouveau numéro de Mille et Une Bulles consacré à un dessinateur de bande dessinée. Cette fois, nous avons la chance d'avoir un local, comme la dernière fois, Jean-Christophe Vergne, en la personne de Manu Cassier. Manu, bonjour, comment vas-tu ?
Eh bien, bonjour Chris, bonjour aux auditeurs.
Alors, ravi de t'avoir parmi nous, hein. Comme je disais, t'es le deuxième local après Jean-Christophe.
Ouais, à Médé, je crois qu'il n'était pas très loin non plus.
Oui, il est oui, exact, c'est vrai. Alors, bien, tu suis l'émission, c'est bien. Oui, il est de Nocelles, exactement. Et donc du coup, j'allais te poser donc, du coup, la première question, parce qu'en fait, tu n'es pas du Lot exactement, tu es né à la base à Paris, en 1972, je me souviens.
C'est ça, je suis né à Paris en 1972. J'ai jamais vraiment vécu à Paris. En fait, j'ai passé quasiment mes 30 premières années dans le 93, en Seine-Saint-Denis.
D'accord. Donc, on va parler donc, du début de ton enfance. C'est simplement la question classique que je pose lors de mon émission aux dessinateurs. Dis-moi les BD ou les auteurs de BD qui ont bercé ton enfance et qui peut-être t'ont donné envie d'en faire ton métier.
Bon, ben, y a pas de surprise, hein. Les premières lectures, ça a été Astérix. Asterix Obélix, Tintin, et puis un petit peu après, la découverte des spéciales Strange avec les X-Men.
Ah, ouais. Ah oui, des comics, d'accord.
Exactement.
D'accord. Et du coup, alors, au niveau école, tu as obtenu un bac et je crois un DEUC d'art plastique. C'est avec ce diplôme qu'on peut être prof d'art plastique, c'est ça ?
Alors, c'est au-dessus, en fait. Il fallait passer la licence plus le CAPES, si je me souviens bien, parce que maintenant c'est plus le CAPES. Il fallait être au-dessus. Moi, je me suis arrêté au DEUG, ce qu'on appelle le niveau licence. Je me suis arrêté. J'avais commencé la licence le temps de valider le DEUG parce que j'avais pas fini en 2 ans. Et j'ai arrêté là parce que je voyais pas l'utilité d'aller plus loin, parce que je voulais pas devenir prof de d'art plastique, quoi.
Ah voilà, parce que justement, j'allais poser la question toute faite en disant oui, je croyais que tu voulais devenir prof d'art plastique à l'époque, voilà.
Non, pas du tout. Non, je me suis retrouvé là-dedans un peu par hasard. Il y avait le gros avantage, en fait, j'étais à la faculté d'art plastique de Saint-Denis, donc Paris 8, et il y avait parmi plein de ce qu'on appelait les UV, je ne sais pas si ça s'appelait encore maintenant comme ça, il y avait une UV de BD. Donc on n'apprenait pas à dessiner, on apprenait beaucoup de tout ce qui était théorie et construction d'une bande dessinée. Donc il y avait ça qui me motivait à aller au bout du DEUG, hein, au moins ce truc-là.
Et ça t'a aidé par la suite ?
Ah ouais, carrément. Mmh. Hein, j'ai eu les bases théoriques de tout ce qui était narratif. Alors on l'acquiert de soi-même en lisant, évidemment, parce qu'on comprend comment tel scénariste et tel dessinateur ont construit leur album qui nous ont bien plu. Mais quand c'est mis quand c'est théorisé, on assimile encore beaucoup plus facilement les choses, en fait.
D'accord. Et alors, je dis en rigolant parce que mes auditeurs et mes auditrices le savent maintenant, je me suis renseigné sur Google, parce que bien sûr, je ne peux pas tout deviner. Avant de faire la BD, à une époque, j'avoue, j'étais surpris, je ne savais pas, pourtant je te connais depuis un moment, tu es devenu facteur. Raconte-nous cette période.
Alors, ça n'a pas duré si longtemps que ça, en fait, mais j'ai fait pas mal de boulot alimentaire. À la base, la bande dessinée ou le dessin, je ne voulais pas spécialement en faire mon métier. C'était plus le dessin passion que j'avais laissé en... plus ou moins de côté. Bon, après, le temps de fonder une famille et tout ça, donc j'ai fait plusieurs boulots alimentaires, donc chauffeur-livreur, dans les services généraux des magasins Marks & Spencer à Paris, rue de Rivoli. Et puis, j'ai passé le concours de facteur. J'ai fait facteur à Saint-Lazare pendant à peu près 2 ans et demi, grosso modo. Et puis, j'ai eu une mutation dans le Lot. Et dans le Lot, c'est pareil, j'ai fait une petite session de 2 ans, 2 ans et demi de facteur. Donc j'ai fait grosso modo 4 ans et demi, 5 ans de facteur.
Et donc justement, c'est suite à cette mutation en fait que tu es tombé amoureux du Lot.
Exactement. Amoureux du Lot, et en plus, avec au gré des rencontres de certaines personnes qui faisaient de la BD, et puis le festival BD de Cagères qui m'a fait en plus d'autres rencontres, y a pas mal de gens qui m'ont dit mais... Pourquoi tu n'essaies pas de vivre du dessin, quoi, enfin de faire de la BD ton métier. Donc je suis devenu à la fin. Je me suis lancé dans la bande dessinée relativement sur le tard.
Oui, parce que j'ai vu justement, avant que tu reprennes complètement la BD, ouais. Tu faisais des animations scolaires, mais aussi des créations graphiques, de logos et tout. Tu étais un peu dans l'illustration.
Oui, oui, oui. Après la partie facteur, j'ai essayé de tâter le terrain, on va dire, dans le dessin. Donc j'ai fait des affiches, des animations d'ateliers, logos, certains magasins, etc. Et avant vraiment de lancer vraiment un projet auprès des éditeurs pour faire un album BD.
D'accord. Et bien justement, j'ai vu donc que c'était, toi je ne me rappelle pas non plus, en 2007, la première BD, donc c'était Le Disparu de Saint-Cyr la Popie, c'est ça?
Alors, ça c'est Le Disparu de Saint-Cyr la Popie, c'est une BD de Joël Polomsky. Moi, il avait fait appel à moi pour, et à un autre, on était deux, pour mettre en couleur son album. J'étais que coloriste sur cet album-là, en fait.
Ah, d'accord. Ah oui, toi, je pensais que tu avais fait aussi partie des dessins.
Non, voilà.
Mais j'ai vu donc, justement qu'après, tu as enchaîné en 2012 avec Les Gueules Cassées. C'est ça ton premier album ?
C'est le vrai premier album, enfin, ce que je considère le vrai premier album en tant que dessinateur, oui, c'est Les Gueules Cassées qui sont sortis exactement en 2012.
Oui, que tu as fait avec Gwenaël Marcé, comme scénariste, et c'était chez Cléopas Éditions.
C'est ça, c'est ça.
Il n'y a eu qu'un tome.
Alors, c'est une grosse aventure éditoriale, ça.
Vas-y, explique.
Le Gueule Cassée, en fait, c'était un diptyque à la base, et quand j'étais en train de réaliser le tome 2, donc pour Cléopas, Cléopas a mis la clé sous la porte, et donc on s'est retrouvé avec l'album qui était un petit peu avancé du tome 2, avoir récupéré les droits d'auteur, et donc on avait cet album-là... à placer chez d'autres éditeurs et bah en fait on a eu juste une opportunité, une fenêtre de tir avec les éditions Sandaway qui était une maison d'édition belge qui marchait en financement participatif. Alors il y a toutes les conditions classiques pour un auteur BD de l'édition, sauf que le financement était par financement participatif. Donc nous on était payés quasi normalement on va dire, mais il y avait tout le budget qui était budgétisé, donc les goodies, mais aussi tout ce qui était impression, diffusion, distribution, etc. Et donc on a pu aller au bout de ce fameux diptyque Les Gueules Cassées qui s'est finalement appelé L'Héritage du Chaos.
Exact.
Donc c'était un gros tome qui réunissait les deux albums de base. Et à la suite de ça, on s'est relancé et on a réussi le financement aussi du tome 2 de L'Héritage du Chaos, qui était donc une suite qui devait se passer à Berlin. Et pareil, en cours de réalisation, là cette fois c'est Sandaway qui met la clé sous la porte et donc voilà, les aventures avec Gwenaël, finalement c'est elles sont un peu maudites quoi. On a quand même coulé, enfin, je dis c'est pas nous hein, parce que justement les trucs marchaient entre guillemets plutôt pas mal, mais on a plus ou moins coulé deux maisons d'édition successives avec notre histoire, quoi.
Mais j'étais en train de me dire, justement, c'est un peu la poisse, parce que, bon, Cléopas, après Sandaway... Bon, Sandaway, ils ont embarqué beaucoup d'auteurs dans leur chute.
Et puis nous, on s'en sort plutôt pas mal, parce qu'on avait, commencé à avancer, mais on avait aussi récupéré une partie des sous. Et malheureusement, alors ça a occasionné beaucoup d'auteurs qui sont restés un peu le bec dans l'eau. Ça a aussi occasionné beaucoup ce qu'ils appelaient les édinotes, les financeurs, qui eux n'ont jamais retrouvé leur bille, ni leurs investissements pour les albums, ni pour s'il y avait des planches originales, des goodies, etc. Et donc eux, il y en a qui ont perdu quand même, à mon avis, assez gros.
Ouais, oui, malheureusement, je pense aussi. Après, je sais que tu as croisé la route donc du scénariste Didier Kélaguyot.
Oui.
Je sais pas si je prononce bien. Alors, si je comprends bien, vous avez commencé à signer un album qui s'appelait Esclave de l'île de Pâques chez Boîte à Bulles, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Alors, Didier, en fait, moi, c'est un peu comme Gwenaël. On a signé le projet et on s'est rencontrés sur le tard. Alors, Didier, on s'est même rencontrés une fois que l'album avait été fait. On avait été, disons que mon nom avait circulé à ses oreilles par un autre ami commun qui était Arnaud Floch, qui est un autre auteur BD, et qui lui avait dit, bah tiens, pourquoi tu contactes pas Manu pour faire Esclave de l'île de Pâques. Et donc on a tout monté, le projet, réalisé l'album, etc. Et on s'est rencontrés pour une dédicace, si je me souviens bien, c'était une rencontre interview dédicace.
Mais avec Didier, du coup, vous n'êtes pas lâché, parce que je sais qu'après, vous avez enchaîné chez Bambou avec la série Facteur pour femmes.
Alors avec Didier, on a refait un autre album qui était une suite de Facteurs pour Femmes. Donc on a fait le livre 2. Le livre 1, c'était dessiné et colorisé par Sébastien Maurice. Et donc moi, ils ont refait appel à moi pour cette histoire-là, parce que Sébastien, lui, était parti sur finalement, ça a été qu'un diptyque sur Marius, mais sinon, il devait réaliser la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny et César. Et donc, on a réalisé le tome 2. Et là, en fait, pour dire qu'on devient un binôme quasiment, c'est que l'album sur lequel je suis en train de travailler, c'est aussi scénarisé par Didier.
Alors justement, c'est bien, tu m'as bien passé la main, parce que j'allais justement te poser la question sur quoi tu travailles. Donc ça y est, oui, tu es encore avec Didier et ton porte-bonheur, j'ai l'impression.
Bon là, on a changé d'éditeur, mais sinon Didier est toujours là.
D'accord. Et c'est, ça sera quoi le dernier mot? Enfin, tu peux peut-être pas en parler, je ne sais pas.
Je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera aux éditions Glénat, mais ça sera sur l'itinéraire d'un personnage qui a vécu dans le premier quart du... Enfin, sur la fin du 19e et premier quart du 20e siècle, qui est un petit peu méconnu, mais a quand même un musée et des jardins à son nom à Paris. Donc, bon, je donne des indices, mais j'en dis pas trop, parce que je sais pas si j'ai trop le droit, donc je préfère pas dire.
Je me doute, pour ça, je le fais un peu parler, le pauvre. Mais et du coup, ça tombe bien, parce que ma dernière question, parce que bientôt notre petite aparté va se terminer avec la pause musicale. Yes. Comment ça se passe, tes journées de BD, justement, actuellement, là, que tu es en train de bosser sur un album? Comment Manu organise ses journées?
Au niveau de horaire, tu veux dire?
Oui, enfin, au niveau, je sais pas, par exemple, le matin, allez, tu vas faire commencer une planche, l'après-midi, tu vas faire une pause. Comment ça s'organise, ces journées?
Oh, c'est par session. Concrètement, là, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je reprends la table lumineuse, une série de 4 planches que j'ai crayonnées, et quand ça va être fait, je vais faire cette fameuse... Enfin, ces 4 planches, je vais les mettre en lavis, scanner, puis après, je les coloriserai. Donc, je procède par... par fournée, on va dire, fournée de petites planches, parce qu'il n'y en a que 4, mais le storyboard, en fait, c'est un storyboard crayonné que j'ai fait pour cet album, j'en ai fait 26 planches sur 91, des lazis, j'en ai fait 5, là, je suis en train de faire une autre fournée de 4, et j'attends, parce qu'en fait, le scénario, il a été validé jusqu'à la planche 26, c'est pour ça que je finalise les planches avant de finaliser le storyboard, puisque le scénario, lui, n'est pas complètement bouclé, en tout cas.
D'accord. Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que souvent, depuis les débuts de Mille et une Bulles, je pose la question aux dessinateurs, et c'est vrai qu'il y en a qui ont des heures de bureau, il y en a qui sont plus du matin pour dessiner, il y en a qui sont plus du soir, c'est pour ça que je suis assez curieux de comment vous travaillez.
Ah ouais, alors moi je suis un peu un diesel, hein, donc j'avoue que le matin, c'est grosso modo 9h, des fois même 10h. Il y a pas mal de trucs sur la... je fais les trucs un peu administratifs, les messages, les machins, enfin je fais un peu de la com, on va dire, au début, voire faire les comptes, etc. Et puis après je m'y mets, il y a la pause du midi, et puis après c'est grosso modo jusqu'à 19h, 19, des fois 20h.
Ah, des fois on dit avec les écrivains, l'angoisse de la page blanche, il y a des moments toi où pour X raisons tu n'arrives pas à dessiner, ou non, ça coule? Question piège.
Non, ça, honnêtement, ça m'arrive pas trop.
Ah, voilà. Non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que les écrivains, on entend juste aujourd'hui j'ai pas d'inspiration et tout, donc toi ça coule, c'est fluide.
Ouais, non, ça peut-être que ça m'arriverait plus si j'avais à scénariser. Mais là, en fait, je suis entre guillemets que le metteur en scène d'une histoire qui ne m'appartient pas, et donc j'ai des descriptifs ou pas, parce qu'avec Didier, finalement, c'est quasiment que... C'est très succinct, les descriptifs, mais il y a des dialogues, et la projection se fait assez facilement. Je vois comment je vais mettre en scène le truc. Donc quand on a la mise en scène dans la tête, après, il n'y a plus qu'à mettre sur la feuille. Donc c'est pas trop ça, en fait. Il n'y a pas trop de l'angoisse de la page blanche.
Ok. Merci Manu Cassier, je m'excuse de t'interrompre. On va faire donc la petite pause musicale que tu as choisi avec Rage Against the Machine, avec Killing of the Name. Désolé pour l'accent anglais, parce que bien sûr, je ne suis pas anglophone du tout. Et on se retrouve après la pause. Merci Manu.
Très bien, à tout de suite.
Présence à Figeac 97.7.